بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تل الوانج. Et les remerciements reviennent à Allah Rabbul Izzah et uniquement lui qui nous donne la possibilité de reprendre le programme après la Salat de Isha. On avait essayé quelques fois de faire après Maghrib. C'était un peu moins évident hein, pour beaucoup de personnes par rapport à l'heure restreinte Maghrib et Isha. Mais alhamdoulilah, hein, le couvre-feu maintenant, mashallah, il est à 23h. Et la semaine prochaine, il n'y en aura plus. J'ai dit, on croise les doigts. Non, on croise pas les doigts. On lève les mains. On lève les mains. Et on implore Allah Rabbul Izzah bi asmahi al-husna wa sifatihi al-ula bi ismihi al-a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab. On implore notre Seigneur, on lui demande de nous garder, de nous préserver ce ni'ma, de pouvoir être libre, ne pas avoir de contraintes horaires, de ne pas avoir de couvre-feu, faire la salat al-isha en jama'at tranquillement, faire notre sunan, witr, le adhkar, le lichad Qur'an, assister à des programmes, inshallah, et rentrer à la maison en toute quiétude, en bonne santé, aham shay, en sécurité et sous la protection d'Allah Rabbul Izzah. On est dans le mois de Rajab. Bientôt, on a dépassé la moitié de Rajab, d'accord? Bientôt Sha'ban. Donc, mashallah, le couvre-feu qui est repoussé et qui disparaît dans une semaine. Alhamdulillah, c'est plutôt de bon augure avant le mois de Ramadan. Espérons qu'inshallah, justement, on puisse cette année, Allahu Akbar, Allah, Alhamd, faire la salle de Tarawih qui nous a tellement manqué. Deux années sans salat ou tarawih, c'était. Wallah, Musta'an, le seul être où vous manque et tout est dépeuplé. On ne comprenait pas le mois de Ramadan sans salat ou tarawih. Combien de nos huffaz ont perdu également le mumarasa, l'habitude de lire et de faire les révisions. Il a réalisé que ce bala, cette difficulté, cette épreuve qui était le Covid, Inch'Allah qu'il disparaisse de lui-même par ce dernier variant Omicron. Qui est un variant plus contagieux, mais en même temps un peu moins complexe, qui s'est généralisé. Espérons que par ça, Inch'Allah, c'est la sortie, le makhraj, et qu'Inch'Allah, on recommence à vivre normalement. On attend tellement cet instant, on peut faire le soufouf à côté. C'est la seule chose qui nous manque pour l'instant. Ça reste un vide dans la salle. Vous savez, on ne sort pas du sujet. Les hadiths qui disent que quand les gens ne rapprochent pas les rangs, Shaitan vient au milieu, puis il amène les waswasa. Et là, on a besoin de cette compréhension qui est du juste milieu. Certes, ça c'est une réalité lorsque les gens ne font pas l'effort de se rapprocher d'Al Saf. Mais là, c'est une contrainte. Là, c'est une contrainte, c'est une obligation. C'est la condition pour que la masjid soit ouverte et que la salat soit accomplie en jama'a, d'accord? Donc là, c'est différent. Et Allah connaît le niyyah de chacun, que c'est pas par rafla, pas par insouciance, ce n'est pas par mépris de l'autre aussi, il ne fait pas la masse côté celle-là, il ne sort pas à quel endroit, mais il ne supporte pas, il est là, wallah. C'est vraiment que c'est une contrainte, et Allah connaît nos manquements, nos faiblesses et le contexte, c'est Allah qui crée les situations. Donc tout ça, on espère qu'on retrouve un peu plus une vie, inshallah, normale, et une spiritualité plus engagée, et qu'Allah nous garde sur le droit chemin. Hada. Vous rappelez le dernier cours de Sirat, de Rahiq al-Makhtoum, on avait parlé des Arabes de le Jahiliyyah, de la période de l'ignorance. Et qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui nous revient à l'esprit, même si on n'était pas là la dernière fois? Quand on parle des Arabes avant l'islam, c'est toujours ce qu'on a appris, hein, qu'on était petit à la madrasa. C'était une époque où ils vivaient comme des barbares presque, hein. J'ai presque honte de le dire. Mais c'était le cas. D'accord? Aucune égalité dans la société, aucun respect pour la femme, aucune égalité entre les gens, ils enterraient les filles vivantes, ce qu'ils faisaient avec les femmes veuves, les jeux de hasard, la consommation de l'alcool, prosternation devant les idoles. On connaît comment était le contexte avant. Et pourquoi je dis que c'est avec un peu de pudeur et de honte, je le dis, parce qu'on parle quand même des sahaba avant l'islam. Mais là où il y a le subhanallah, l'ouverture, le fath et la hidayah, la guidée qui vient d'Allah et qui nous donne à nous tous espoir, ce qu'on avait dit ça, on a dit ça en conclusion, c'est qu'Allah est capable de sortir des gens minal dhulumati ilan nur. Sortir des gens de l'obscurité totale. L'humanité n'avait pas atteint un tel degré de barbarie, si ce n'est dans très peu de cultures. Et ces gens-là vont devenir des gens khairun nas. Khairul quruni qarni. la meilleure des générations, les meilleurs des compagnons des prophètes de l'histoire des prophéties. C'est-à-dire que les Sahaba étaient des meilleurs compagnons que ceux qui étaient avec Isa, que ceux qui étaient avec Moussa alayhi salam, et ainsi de suite, les meilleurs des hommes. Ça, c'était les défauts, les manquements de la société avant l'islam. Ce qui nous permet également de réaliser comment la mission du prophète allait être difficile et complexe. Et vous savez, quand on retrouve un peu chez nos grands-parents du Gujarat, de l'Inde, ma'ziratan, on parle un peu plus de nos origines indiennes, désolé pour les autres. Parfois, quand vous parlez avec les anciens, les indiens, hein, ils ont une façon de voir les choses, ils sont bloqués dessus. Et quand vous allez voir un ancien, essayez de le convaincre. Après, c'est pareil dans toutes les cultures, hein. Allez voir un vieux tonton comorien qui a des habitudes, d'accord, des traditions du village. Allez lui dire qu'il faut voir les choses d'une autre façon. Les anciens, ils n'arrivent pas. Dans toutes les cultures, c'est pareil. Mais chez les Arabes, dans les Jahiliyyah, c'était extrêmement compliqué. Et les idoles, on ne veut pas tout mélanger, on verra ça au fur et à mesure, mais les idoles qu'ils mettaient en avant, c'était souvent des fins politiques. À des fins politiques, tout à fait. C'était pour avoir le contrôle sur la péninsule arabe. Parce que les Arabes, les différentes tribus, se reconnaissaient dans le culte de ces idoles. Et ces idoles se trouvaient sous la responsabilité de qui ? Des Quraysh. Ce qui veut dire, les Quraysh contrôlent ces idoles, les Arabes adorent ces idoles, Quraysh contrôle la péninsule arabe en entier. Et quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va venir et dire qu'on va enlever tout ça, Aja'al al-alihata, il faut bien réviser la Rajab, Aja'al al-alihata ilahan wahida, que cet homme, il vient, le sens du verset, il va enlever toutes ces divinités et nous dire de nous orienter vers un seul, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'ils allaient perdre toute leur autorité. Des générations, j'allais dire des années, des générations qu'ils mettent en avant ces idoles, qui leur a permis d'avoir la main mise sur la péninsule arabe, et ils allaient perdre tout ce prestige en même temps. Et donc, je résume, la mission du prophète sallam allait être extrêmement complexe, la mission la plus difficile de l'histoire des prophéties. Avec des pharaon, Moussa alayhi salam a fait à combien de pharaon? Un seul. Le prophète sallam va avoir fait à Abu Jahl, à Abu Lahab, et ainsi de suite. Et encore plus, quantité de personnes. Le prophète alayhi salat wa salam va être éprouvé par des trahisons. Quel prophète a été trahi? Beaucoup de fois. Yaqub alayhi salam. Beaucoup de trahisons de la part de ses proches. Le prophète va connaître des trahisons de la part de ses oncles, des gens de sa tribu, et ainsi de suite. Le prophète va être éprouvé par la maladie, par la sorcellerie, et ainsi de suite. La mission la plus complexe, les épreuves les plus variées, toutes les épreuves qui ont touché l'ensemble des prophètes, alayhi salat wa salam, le prophète va les vivre. Et dans un laps de temps réduit. Combien d'années de prophétie, Abdul Malik?
43.
De prophétie. Hein, il y a Soufiane. 23 années. Anour. 13 ans Makka, 10 ans Madina. C'est pas long comme prophétie, hein? Nuh alayhi salam, c'était combien de temps? Noé, Alpha Sanatin Illa, 50 Aam, 950 années. Et là, on parle de 23. En 23 ans, le prophète va changer toute la péninsule arabe. Un peuple, une culture bornée, une culture qui ne voyait rien comme les autres, qui était telle, ils avaient tellement des habitudes étranges qu'aucune autre civilisation n'avait envie de les envahir. Personne ne voulait de ces irréductibles-là. Déjà, il n'y avait rien. Il y avait pétrole. Ça aurait servi à quoi de toute façon? Il n'y avait pas d'or, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de végétation, il n'y avait pas de fruits, il n'y avait pas de légumes, ou quasiment pas. Et en plus, c'était un peuple très complexe. Et donc, même les pieds des barbares ne voulaient, même les Romains n'ont pas essayé. Ils sont partis au Cham, oui, des pays arabes, mais d'autres régions. Mais la péninsule arabe, personne ne venait. Personne ne voulait même se frotter à ces gens. Et le prophète alayhi salatu wassalam va changer les cœurs de chacun d'entre eux pour qu'ils deviennent, comme on l'a dit tout à l'heure, les meilleurs des hommes. Maintenant, ils avaient des qualités, énormément de qualités, et le hadith de base que nous devons retenir, c'est innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, que j'ai été envoyé pour sens du hadith, on va dire compléter, parachever, il y a différents termes, les bons comportements que les Arabes avaient déjà. C'est-à-dire que ces Arabes, mahma kan, quels que soient les péchés, les manquements qu'il y avait en eux, c'est clair, c'est clair. Mais ils avaient des qualités. Ils avaient des choses qui étaient au plus profond de leur cœur. Il y avait des choses qui étaient innées en eux. Pour faire simple, et pour rester dans mon timing de 10 minutes, l'hospitalité, al-karam, la générosité, dhiyafa, et le respect des engagements, le sens de l'honneur, le rejet total de l'injustice, là je cite juste les points, et une vie simple, pure et simple, souvent des bédouins, il y a des gens qui avaient un langage très clair, un franc-parler, un très éloquent, mais un franc-parler. C'était quelque chose à dire, il disait comme il était. Pas d'hypocrisie, pas de haine, pas de rancune, pas de coup bas, c'est-à-dire un cœur pur. Beaucoup de jahiliya, mais un fond qui était mashallah. Et c'est sur cette base que les qualités que le prophète va leur inculquer, ça va faire d'eux les meilleurs des hommes. Alors, on prend par exemple l'hospitalité. Vous rappelez du hadith madani cette fois-ci, où le prophète sallam avait reçu un invité et le prophète sallam n'avait rien à lui offrir. Il était voir un sahaba, le nom du sahaba ne me revient pas, si quelqu'un connaît le nom, il a dit que voilà, est-ce que tu peux bien accueillir cette personne? Hadith connu, hadith sahih. Le sahaba est tout honoré et il va voir le prophète sallam, il va voir son épouse et dit voilà, le prophète sallam nous amène un invité. Il faut qu'on lui prépare à manger et on va lui offrir l'hospitalité. Je fais une petite parenthèse de nos jours. Vous voyez quelqu'un à la masjid, il dit que je sors de Madagascar, je suis de passage et là j'ai pas trouvé d'hôtel et tout. Ah d'accord. Allah facilite, bah, allez, bah, allez, comme, nous fait doigt. Et demain Fajr, hein, 6 heures. Ok, hein? Allez, file. Qui c'est qui dit, ah, subhanallah, il n'y a pas de place ou alors il y a une pension, là c'est 50 euros la nuit. Ah non, je t'offre la chambre. Déjà, ça, c'est un niveau de générosité. S'il y a, mashallah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Le niveau que nous voulons, c'est la personne lui prend par la main. Ta'al. Tfadal ma'in. Tu es mon frère en Allah. Tu t'appelles comment? Abdullah, Ibrahim. De quel village? Tamatav, Diego, peu importe l'endroit. Endroit que j'ai jamais vu, je connais même pas. Viens, ta'al. Tfadal. Viens à la maison. Viens manger d'abord. Et voilà l'hospitalité. Ça, c'est la chambre d'amis. Et tu vas dormir avec nous ce soir. Et je t'héberge 3 nuits. Ça, c'est al-karam fil islam. Ça, c'est l'hospitalité de l'islam. Ça, c'est une qualité qui était intrinsèque, propre, ancrée dans le cœur des Arabes. Est-ce que nous, on est prêt à faire ça? Non, on ne sait pas. Peut-être que c'est un rigoriste, ça peut être un terroriste, ça peut être quelqu'un qui est venu là. On va essayer d'emprunter des voies médiatiques et on va se laisser aspirer. Waswasé, c'est un nouveau terme, par shaitan, et en finalité, on ne fera rien du tout. Allah musta'an. Les Arabes, non. Alors, on revient à l'histoire. L'épouse dit à son mari, on n'a quasiment rien à manger. C'est-à-dire que la portion de nourriture qu'on a ce soir, c'est juste assez pour les enfants. Adib quand même. Hein? On est où là? On est à Makkah, Madina, j'ai dit au début. On est à Madina. On est à Madina. C'est hadith qui est à Madina, ça. C'est-à-dire, il y a déjà eu 13 années d'islam à Makkah. Là, on est dans la période madani. C'est des sahaba qui sont déjà au summum de leur foi, là. Et ils ont atteint ce haut degré de iman que si l'ange de la mort venait à reprendre leur âme à n'importe quel instant, ils iraient dans le Jannah. Parce qu'ils vivent avec le prophète sallam. Ils ont les qualités, comme on a dit tout à l'heure. Mais ils vivent dans un tel état de pauvreté. On ne parle pas de simplicité, là on parle de pauvreté. C'est de la pauvreté. Quand tu as juste assez à manger pour tes enfants et que le papa et la maman ils peuvent pas manger eux, c'est de la pauvreté. Et c'est là que on réfléchit, on reconnaît les bienfaits qu'Allah nous accorde et on fait choukar, on enseigne nos enfants, voilà, et le peu qu'on a, mashallah, même si ce soir le repas n'était pas fabuleux, hein, c'était quand même bien, même si on a 5 bonbons de pain qui sortent tcha-tcha et qu'il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de viande à table, au moins on mange, on ne dort pas le ventre vide. Allez faire comprendre ça aux enfants aujourd'hui. Tu fais, tu dis, ah, on n'a pas rien pour manger, ben, mais ça va acheter telles affaires restaurant. Non, on a dit qu'il y a même, il y a rien, il n'y a pas d'argent, voilà, chèque. Déjà, ça, c'est un premier point. Deuxièmement, on réalise que être aimé par Allah n'est pas forcément synonyme d'opulence et de posséder plein de choses. En fait, nous, on aimerait être au premier rang, bien habillé, bien parfumé, belle barbe, bien respecté comme il faut, mais qu'en même temps, quand je sors à la masjid, je suis dans ma grosse voiture, et que j'ai une belle maison, et que j'ai le maximum de confort chez moi. Et qu'après, je fais le puits à la masjid. Je veux que tout soit bien, quoi. Ma spiritualité, elle est au top, mais ma maison, elle est au top, parce que s'il y a un décalage, je me dis que non, c'est pas possible. C'est pas possible que je fais tahajjoud, je fais autant de bonnes actions, et que ça ne marche pas chez moi. Et que j'ai pas assez d'argent, et que j'ai pas de revenus suffisants. Ben, Allah n'aime pas moi. Donc, tout de suite, on va aller vers des pensées extrêmes. C'est ça, les pensées extrêmes. Allah ne m'aime pas. C'est-à-dire, tu n'acceptes pas le qada wa le qadr. Tu l'as lu quand tu étais petit à la madrasa wa le qadr khayrihi. وشره من الله تعالى. Le destin, c'est dans les mains d'Allah. Mais, dans la réalité, tu n'acceptes pas. Et tu te dis que si je fais autant de bonnes actions, il faut bien qu'Allah me récompense. Mais ma récompense, ben je veux l'avoir maintenant aussi. Là-haut, dans le-delà, bien sûr, mais tout de suite. Et s'il y a un manquement, on se dit, mais c'est pas possible, tout ça ibada, tout ça bonnes actions je fais et tout et tout, et j'ai des problèmes dans la vie, c'est incompatible. Non. Regarde, ben, ce sahaba. Après, arrête de te vanter, de faire le grand pieu. Je parle pour moi en premier, hein. De faire le grand machin. Nous, on est une grande famille, on est des gens, mashallah, on est dans la religion et tout. Le moindre petit problème, tu vacilles, tu perds tes équilibres et ton iman est remis en question. Allah musta'an. Qu'Allah nous protège des épreuves et des fitna qui peuvent nous perturber. Sahaba, le meilleur des hommes, akal ma fi. Ya hajj, akal ma fi. Il n'a même pas mangé le soir. Et ils accueillent et puis ce conseil dit, voilà, vous connaissez l'histoire. On va faire comme si que la lampe ne marche pas. Pas besoin d'appeler EDF. C'était pas ça, c'était des lampes à l'huile, je pense, hein. Il dit, on fait comme si qu'on est en train de réparer et on met un peu de nourriture à table et tu fais semblant que tu es en train de mâcher et bref, tu fais comme si que tu manges et l'invité mange. En finalité, il y a assez à manger pour un seul être humain. Et les enfants, on les envoie dormir très tôt. Le ventre vide. Pour honorer l'invité du professeur. Quelqu'un qui ne connaissait pas. Mais le professeur m'a dit, ça c'est mon invité. C'était ça les Arabes. Et ça, ils les avaient déjà avant l'islam. Et ils vont le garder. Et ils vont maintenant l'amplifier. Avec iradat wajhillah. La recherche de l'agrément d'Allah. Ça, c'était un exemple parmi tant d'autres pour l'hospitalité. On a parlé également de le respect des engagements. Mais là aussi, dans le respect des engagements, ils exagéraient. Ils étaient prêts à donner leur vie, la vie de leurs enfants pour l'honneur de la tribu. La tribu a promis quelque chose, il faut le faire jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y avait des choses bien, mais c'était mubalagha, à exagérer. Et l'islam va ramener le juste milieu. Wakadhalika on n'a pas bon Hafez ici, c'est pas possible. Eh ouais, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, darmian comme il dit. Juste milieu. Dans chaque chose, wasatiyya. Naam. Même quand il s'agit de venir en aide à notre prochain, ainsi de suite, mashallah, on le fait. Je veux dire que tu regardes quand même ta situation. Ce qui est, il y a toujours un juste milieu dans chaque chose. Hada. Le sens de l'honneur, le rejet de l'injustice, et ainsi de suite. Tout ça, c'était des qualités que les Arabes avaient. Et justement, cette vie de bédouin qui fait que, Mubarak Foridi, une nature sincère et honnête et leur aversion pour les intrigues et la traîtrise. Bon, la traduction est un petit peu spéciale, mais tout ce qui est hypocrisie, médisance, calomnie, des trucs chelous, comme on dit, les Arabes ne supportaient pas ça. Et d'ailleurs, quand le prophète va s'installer à Madina, tout ce qu'il va mettre en place sera basé sur une relation de confiance. Et quand il va faire le pacte de fraternité entre les Muhajirin et les Ansar, c'est un engagement du cœur. Et il faudra le respecter. Et les Arabes, ils savaient c'était quoi ça. On s'est engagé, on a fait un bay'a, on le respecte jusqu'à la mort. Et ils le faisaient. Et quand il y avait donc, et c'est là que ça ne va pas marcher, quand il y avait le pacte de non-agression, avec les Banu Qaynuqa, Nadir et Quraïda, ben, ils avaient affaire à d'autres populations. Et eux, ils ne vont pas respecter leur engagement et ça ne va pas marcher. Et quand on ne respecte pas un engagement avec les Arabes, pas même les Arabes ici, hein, les Arabes, quand ils ne respectent pas les engagements, ben ça ne marchait pas. Et le prophète les avait expulsés de Madina. Ah ben. Le timing est terminé, on va s'arrêter, Inch'Allah. Mais ce qu'on retient, c'est qu'ils avaient, Inch'Allah, des qualités. Et ce n'est pas pour rien si Allah a choisi ce peuple-là pour accueillir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une chose qui me tient à cœur. C'est un message que j'aimerais, qu'on a fait passer à nos élèves à la madrasa, et j'aimerais qu'on retienne ça. On ne peut pas être pieux si on n'a pas un cœur pur. On ne peut pas être pieux si notre cœur n'est pas rempli de gentillesse, de bonté, de bonnes intentions. Je ne peux pas être pieux tant que, là on va dans l'autre sens, tant que mon cœur est entaché de jalousie. Tant que dans mon cœur il y a la jalousie, il y a la haine, il y a des mauvaises intentions, ne te définis pas comme pieux. Même si tu as une barbe de 45 cm, mashallah, même si tu connais le Coran sur le bout des doigts et que tu as une lecture qui est magnifique, même si tu as un titre, alim, fundi, peu importe, tu as un titre, tu as fait des études, tu connais les hadiths, tafsir, mais si dans ton cœur il y a les défauts qu'on a cités là, tu n'es pas dans le droit chemin, pas encore. Tu n'es pas égaré, mais tu n'es pas encore dans le droit chemin. Il ne vient pas, comme il dit en grec, il ne vient pas battre l'estomac. Ne viens pas te vanter. Ne te considère pas comme étant le bon musulman de cette masjid. À moins, il fait ça, il fait ça. Lui, on fait ça, on fait ça. Mais pas derrière que sauf un coup de famille. Quand il fallait, quand maman est décédée, c'est un cas parmi tant d'autres, hein, quand ta maman est décédée ou ta grand-mère est décédée, et que tu t'es retrouvé avec tes frères et sœurs chez le notaire, comment tu t'es comporté? Comme des chiens autour d'un morceau de viande. Je suis désolé, le terme est cru, hein, mais c'est ça. Tu as jeté un morceau de viande et tout le monde saute dessus. C'est toi qui es au premier saf? Pas, mashallah, les lectures de Coran, les qualités, les sifat. Et quand il s'agit d'un morceau de terrain ou d'une part de CI ou d'ainsi de suite, là, c'est-à-dire, on redevient jahil, on redevient sauvage. Et on est prêt à faire tous les coups bas pour avoir la terre, pour avoir les biens, pour avoir l'argent, Allah Musta'an. Et je pourrais vous citer toute la nuit, Allah Musta'an, des cas. Vous savez, les gens viennent nous voir, les gens se confient. Et c'est pas très bon à entendre. Mais il y a des fois où des gens qui ont une apparence trompeuse, apparence pieuse, toutes les qualités qu'on peut imaginer. Mais c'est cette maman qui a donné une bonne éducation religieuse à ses enfants, mais maintenant, les enfants se sont mariés, et cette maman-là, ou ce papa-là, il n'arrête pas de mettre le nez dans le couple de leurs enfants, jusqu'à pourrir la vie de leurs propres enfants. Mais ça, c'est pas digne, ça. Là, tu es en train de faire du tort aux gens. Causer du tort, essayer d'entrer de force, c'est-à-dire même par effraction, hein, dans la vie des gens, revoir l'éducation de leurs enfants, ça se fait comme ça, donner des leçons et ainsi de suite. C'est-à-dire pourrir la vie d'un jeune couple jusqu'à parfois amener à une rupture, ça c'est pas digne. Ça c'est pas digne. Quand il s'agit de bien, quand il s'agit de qualité ou d'un projet que mon voisin il a et qu'il est en train de réussir, en train d'aboutir, là ça me fait mal. Ça me fait mal, même si c'est pas du tout mon domaine, je suis pas de ce métier, de ce domaine-là. Mais du moment qu'il y a une tête qui se lève un petit peu, ah, t'es mon ventre fait mal. Ça, c'est une jalousie qui est rentrée dans le cœur, qui est passée par les tripes et qui te détruit. Car le prophète m'a dit que la jalousie détruit les, qui complète hadith. Détruit les bonnes actions comme la métaphore, le feu consume le bois sec, les brindilles. C'est en un laps de temps. Voilà, tout tes a'mal que tu es en train de faire là, la jalousie là, cette méchanceté intérieur qui bouillonne. C'est de la, il y a des gens qui ont astaghfirullah. Et je veux pas qu'on se quitte avec un tableau tout noir, mais je vous promets, il y a des gens qui ont un mauvais fond. Il y a des gens qui ont un mot, il faut les fuir. Faites doua pour eux et fuyez. Parce qu'il y a des gens qui ont un ayn, une approche de hasad et de mauvais œil, c'est extraordinaire. Et ça, c'est pas compatible avec ton apparence d'homme pieux. Ma yumkin. Ce n'est pas compatible. Peu de bonnes œuvres, mais de l'autre côté, tu n'acceptes pas que c'est Allah qui lui a donné à lui. Et si Allah ne t'a pas donné comme lui, ça vient de Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. Vous n'êtes pas d'accord avec Allah? Tu n'es pas d'accord avec celui qui a donné? Revois ton iman, d'accord? Et ainsi de suite. Je suis un propriétaire. Mashallah, j'ai des biens. Et en plus, les biens, ce n'est pas moi, c'est mes parents qui ont les biens. Je n'ai fait qu'hériter, moi. Si c'était à moi de construire un bâtiment de 5 étages, qui aurait fait ça à notre époque? Et je suis propriétaire, j'ai 5 appartements. Et je loue à des gens. Quand un locataire vient dire, voilà, il y a tel problème, je sais pas moi, infiltration, enfin, je connais pas les termes techniques, mais des trucs qui reviennent aux propriétaires. Tu dis, ah non, moi je fais pas. Et tu laisses dans ta clé, dans une difficulté. Et tu viens et tu prétends être un waliullah, alors qu'il y a peut-être des familles qui sont en difficulté à cause de toi. Et que ces gens appellent loyer. Tout ça, c'est des situations, des scénarios de la vie. Et nous, on connaît dans notre communauté comment on est. Comment on est proche de notre argent et que quand il faut donner, on donne pas et ainsi de suite. Mais malgré ça, on arrive à se convaincre qu'on est des gens bien. On n'est pas des gens bien. On a besoin de se réformer. Il faut faire très attention. Parce que quand l'ange de la mort va venir là, il va pas regarder uniquement à l'apparence. Sa mission, c'est de te ramener vers Allah. Et le jugement, c'est là-haut. Et quand Allah juge ta vie, il n'y a rien de pire que le mal que tu as fait aux gens. Tout comme il n'y a rien de mieux que le bien que tu as fait aux gens. Le prophète me dit, « Irhamu man fil ardi, irhamukum man fil sama. » Ayez de la pitié, ayez de la bonté, de la clémence pour les gens, pour l'ensemble des créatures d'Allah. Et ceux dans les cieux auront de la clémence pour vous. On veut avoir le pardon divin là-haut, ben pardonne et donne et sois bon, sois généreux. Ça montre que quand on est bon envers les gens, comment est-ce qu'Allah nous honore et nous accepte. Mais quand on fait du tort aux serviteurs d'Allah, aux créatures d'Allah, il faut s'attendre à des conséquences là-haut. Donc je crains que beaucoup parmi nous sommes sûrs et persuadés d'être les meilleurs des croyants parce qu'on a l'apparence des bons croyants. Mais si on n'arrive pas à régler nos manquements, nos problèmes intérieurs, Allah musta'an, qu'est-ce qui se passera après la mort? Allah seul le sait. Donc, qu'Allah Rabbul Izzan donne la hidayah, ihdina as-sirata al-mustaqim, qu'Allah nous permet de combler nos manquements, qu'Allah pardonne nos erreurs, qu'Allah guide nos cœurs vers ce qui est mieux et nous fait voir la vérité comme étant haq. Et quand c'est quelque chose de mauvais, qu'Allah nous fait comprendre que ça c'est mauvais. Pour que nous ne mettions pas un pied dans le haram et que jamais de mes mains ou de ma bouche va sortir ou je vais faire quelque chose qui pourra causer du tort à mon prochain. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accepte. Et donc ces Arabes avaient ces qualités, mashallah. Et ces qualités vont se cristalliser, vont émerger pour qu'ils deviennent les meilleurs des hommes. Ça veut dire que pour être un bon croyant, il faut avoir tout d'abord ces qualités. Après, tu feras ton tahajjud, ta lecture du Coran, du dhikrullah, mais il faut avoir d'abord le cœur pur. Et de la bonté et de la grandeur d'âme. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mardi prochain, on sera au centre-ville pour les noms d'Allah et le mardi d'ensuite, on sera ici et on verra la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une biographie consiste de son père, son grand-père et son arrière-grand-père. Jazakallah khair.